VIP, bonjour. Carré VIP, ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission de radio dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'aux plumeaux, aux brushing et à la fashion. Virées importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la vie ou au-delà, elles viennent bavarder au Carré VIP avec leurs deux invités. La VIP de ce jour, c'est Anne Lecourt. Bonjour Anne, et vous êtes venue avec Marie et Karine. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Anne, vous avez j'ai un peu retrouvé en vous découvrant à travers ce que la presse et autrement, comme une alter ego, parce que à travers cette émission, l'objectif c'est vraiment de donner la parole aux femmes. Et vous en faites autant avec un livre magnifique dont nous allons parler tout à l'heure, Les Discrètes, paroles de Bretonne. Alors, racontez-nous déjà un peu votre parcours. Vous étiez traductrice avant de vous lancer dans ce travail-là.
Oui, c'est vrai que c'est mon premier métier que j'ai pratiqué pendant de longues années, plus de 20 ans, 20, 25 ans. J'en ai été détournée pour des raisons économiques, essentiellement. C'est un métier en voie d'extinction, j'allais dire, un peu saboté par la façon dont le monde tourne aujourd'hui.
Ouais.
Je regrette peut-être de l'avoir abandonné trop tard, puisque je me suis, à partir de ce moment-là, lancée dans une autre entreprise.
Votre nouvelle vie vous a
ma nouvelle vie me correspond beaucoup plus que celle que j'avais auparavant. Je suis issue d'un milieu qui m'a donné le goût de lire, d'écrire, le souci des autres. Mais je ne me suis pas posé de questions personnellement, j'avais le goût des langues et j'ai donc choisi un métier de traductrice. Depuis, j'ai donc... décider de faire parler les autres, de faire parler les femmes, tout spécialement au travers de ce livre, qui est une rencontre avec des personnes humbles, ordinaires, ayant une vie ordinaire dans un coin ordinaire, et avec à qui j'ai eu envie de donner la parole. Je crois que c'est ça peut-être dans ce parcours un peu qui peut paraître lisse, assez conventionnel, c'est-à-dire répondant à l'idée qu'on peut se faire d'une carrière uniforme,
Tout ce qui n'est pas
sans aspérité, voilà, et qui en fait aujourd'hui a trouvé une forme d'expression très, très authentique dans l'écoute des autres et puis la transmission. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de même que m'adresser à un public un peu laissé sur le bord de la route, un peu dans l'ombre, un peu en retrait. Voilà.
D'accord. Et ça, ce projet-là, il est venu comment? Parce que on vous qualifie d'écrivain public, c'est ça votre activité?
C'est ma nouvelle activité.
C'est ça, d'accord.
Pour des questions.
Donc, vous êtes amené sans doute, vous êtes contacté par des gens qui vous disent ben voilà, moi j'aimerais bien que vous collectiez mon histoire ou celle de ma mère ou de mon oncle. C'est comme ça que ça se passe hein?
C'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais. Je n'ai pas eu le loisir finalement d'aller si loin, puisque j'ai monté dans un premier temps des ateliers d'écriture.
Ouais.
Là, pareil, en direction de personnes qui pensaient qu'elles ne savaient pas écrire.
Et où ça, dans votre commune ou...
Dans ma commune, oui. Dans ma commune, dans un lieu public, à la médiathèque. C'est un petit laboratoire d'exploration en direction de gens qui pensent qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils ne savent pas faire, donc sans rapport immédiat avec l'écriture, mais bien davantage avec l'expression. L'écriture, c'est un mode d'expression. Et j'ai vraiment à cœur de le dépouiller un peu des carcans un peu normatifs, voilà, de l'écriture. Ce qui est important, c'est ce qu'on a à dire soi, c'est raconter son parcours. Idéalement, c'est vrai que plus tard, si l'occasion m'est donnée, j'ai à cœur d'accompagner les gens dans l'écriture, donc comme écrivain public, dans toutes sortes de démarches.
D'accord. Alors, comment vous est venue l'idée de produire ce livre, Les Discrètes, paroles de Bretonne? C'est une démarche avec un éditeur que vous avez rencontré
ou... Non, c'est en fait, au départ, c'est une rencontre avec la communauté de communes de Montfort, à
D'accord.
qui je viens proposer des services d'écriture, justement, aux gens, pour détraumatiser un rapport à l'écriture qui est souvent vécue comme élitiste. Ouais. Voilà, j'avais envie de faire du bénévolat dans les communes. Et j'en ai donc discuté avec les élus à ce moment-là, qui n'ont pas mordu, qui n'ont pas adhéré à l'idée, mais avec qui j'ai eu un échange qui laissait penser qu'on manquait d'histoire locale. Mm-hmm. On n'avait rien sur les femmes. Et là, c'était d'accord. vraiment un truc avec quoi je suis repartie, qui a mûri tout de suite, que je me suis appropriée. Je me suis dit, ça, c'est mon truc. Oui, je vais aller à la rencontre des femmes.
Ouais.
Et j'ai envie que ça soit des vieilles femmes. Et j'ai envie que ça soit des femmes ordinaires. Des femmes qui pensent qu'elles n'ont rien à dire, rien à raconter.
Et pourtant, qu'est-ce qu'elles en ont à dire? Moi, je ça me suis régalée riche. À la lecture. Il y a combien de portraits?
Il y a 15 portraits en tout, c'est ça. Oui.
Ouais. Alors, illustrés de quelques photos anciennes qu'elles ont dû vous fournir. Deux portraits de photos faits par Daniel Le Danvic.
Absolument.
Hein. Mmh. Et ces histoires, je trouve ça mais absolument merveilleux et époustouflant. Ces gens dits ordinaires, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter? Qu'est-ce qu'ils nous évoquent de notre propre histoire, de la société, du monde dans lequel on vit?
C'est exactement ça. C'est quand au sens large, l'histoire de la famille de tous, c'est notre famille dont il est question là. On est tous plus ou moins issus de cette famille rurale, modeste, et qui au départ travaille simplement pour nourrir les siens. Et ça, voilà, pour moi c'est aussi un hommage remarquable à ces femmes-là, qui sont des femmes de devoir, de dévouement.
Oui, des mots qui reviennent souvent, devoir, dévouement.
Ouais. Oui, qui sont des femmes dans l'acceptation d'une condition. Et qui pourtant vont faire bouger les lignes dans l'éducation, en particulier qu'elles vont donner à leurs filles.
Ouais.
Elles ont tout ça en commun de faire en sorte que leurs filles aient un destin différent du leur.
Ouais. Anne, le coup, il est venu pour vous le temps de faire.
Une déclaration.
Et alors, votre déclaration d'affection, bien sûr, vous la faites à Marie, qui est une des héroïnes de votre livre « Les discrètes ». Alors, présentez-nous un petit peu, Marie.
Je vais présenter Marie discrètement, mais je pense qu'elle le fera mieux que moi. Marie, c'est mon deuxième portrait, ma deuxième rencontre. Marie, elle a peut-être oublié depuis, mais quand je suis venue chez elle, elle s'était couchée très tard parce qu'elle avait regardé Arte jusqu'à 2h du matin. Il y avait une rétrospective sur les lois Simone Veil et sur l'avortement.
Oui, c'est vrai.
Et c'était un propos qui lui était cher. Et on a beaucoup discuté de ça. Marie, elle est là aujourd'hui parce que évidemment, j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour elle. C'est un petit peu aussi l'intellectuel. Je l'ai vécu un peu comme ça, moi, du livre. Parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et qu'elle a un portrait un petit peu différent de tous les autres,
ouais, c'est vrai.
Qui est un portrait qui parle de la condition féminine. Voilà, et ça, c'était tout spécialement intéressant. En ce sens, il ne ressemble pas aux autres.
C'est vrai, il est différent. Et alors, Marie, parce que chacune des femmes présentes dans ce livre a un titre, un sous-titre, et vous, c'est l'étrangère. Alors, j'étais très intriguée, je me disais, tiens, après les photos, je voyais quand même une Française sous-chienne, comme on dit maintenant, et je me disais, d'où venait-elle? Et j'ai compris que vous étiez de l'autre côté du Couesnon, en gros, que vous venez de Normandie, et ça vous a fait passer pour une étrangère quand vous êtes venue vous installer en Bretagne.
Oui.
Ça paraît fou, ça.
Oui, parce que dans notre coin d'agriculteurs, à BD, les gens étaient enracinés.
Ouais, ouais.
Et nous, on venait d'ailleurs. Avec
même pas du canton voisin, en plus. Ouais.
Non. Avec 5 enfants, dans un coin où il n'y avait pas beaucoup de... Les familles, il y avait plusieurs familles sans enfants.
Ouais, en plus.
Alors, il a fallu quand même un peu...
Ça a été difficile, l'intégration.
Oui, d'accord. C'est difficile. Hein.
Ouais, ouais.
Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir Anne. Autrement, je crois que j'aurais jamais osé.
Évoquer tout ça.
J'aurais jamais osé dire rien du tout. Oui, je crois pas.
Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes de votre génération qui ont vécu leur vie comme si c'était naturel. Quoi. On n'a pas à en faire, on n'a pas à la raconter. La discrétion est souvent de mise.
Oui, j'avais très peur, moi.
Et même, vous pensiez que vous n'aviez pas forcément de choses à dire, ça a été ça.
Ouais. Oui, alors que, bien sûr que si. Ouais. Et alors, vous avez été naturellement aussi, enfin c'était assez fréquent à l'époque, les gens comme vous qui avaient une ambition personnelle, sociale, humaine, étaient souvent engagés dans la JAC, la jeunesse agricole chrétienne. Vous, donc ça a été votre passage aussi.
Oui, voilà.
Et votre mari aussi.
Aussi, oui.
Donc vous avez, votre mari a été... vous étiez venu pourquoi en Bretagne?
Parce qu'on avait une petite ferme en Normandie.
Qui nourrissait pas assez
et tout le monde. Avec nos 5 enfants, il n'y avait pas d'avenir possible.
Ouais.
Il fallait changer d'horizon. Alors on est allé dans le sud, voir des fermes. Mais mon mari n'était pas du tout prêt. Il me dit qu'est-ce qu'on fera avec 4 filles dans ces pays-là où que c'est pas... Moi, ça m'aurait pas trop dérangé.
Ouais, ouais.
Mais bon.
Alors, vous vous êtes retrouvés là.
On est restés. On avait un ingénieur agronome qui venait nous faire des réunions de temps en temps. Et il était de Rennes et il connaissait cette ferme-là qui était allouée. Mm-hmm. Bon, on s'est lancé.
Ouais.
Ça n'a pas toujours été drôle.
C'était pas vraiment une vocation, l'agriculture,
non,
pour vous.
J'aurais aimé faire autre chose, mais j'ai été trop. Je sais pas. J'avais un instinct, moi, dans la commune ou dans le canton où on était, on pouvait passer le brevet.
D'accord.
Mais j'aurais pu le passer, mais je sais pas, l'instinct était très dur, très...
Oui, oui. Puis on avait aussi tendance à penser que les enfants de fermiers, il fallait peut-être les laisser dans leurs conditions, peut-être. Les filles aussi. On voit souvent ça dans votre livre, Anne, que souvent, les filles, pourquoi ? Non, elles vont être placées, comme on disait. Hein. Mmh. Elles vont aller travailler dans les fermes.
Les filles ont une place qui est décidée par les pères ou les frères aînés ou les maris. La construction personnelle n'existe pas du tout.
C'était une notion qui était complètement étrangère, ça, c'est sûr.
On suivait.
Donc on suivait.
Ouais. Et alors vos enfants, ils sont restés dans le monde agricole ?
Non.
Non ?
Enfin si, il y a un seul garçon, qui est le jeune d'ailleurs.
Ouais.
Et s'il est resté, mais il prend sa retraite au mois de janvier.
D'accord. Alors, voyez, il y a une photo très savoureuse qui est dans ce livre. On voit toute votre jolie famille devant vous, devant Prise Unique. Et ça, c'était vraiment un des lieux on parlait pas de shopping à ce moment-là, mais le Prise Unique était sur les quais à Rennes. Les filles, toutes avec leur petite robe Vichy, le petit garçon, ouais, le beau petit blanc.
Tout le monde habillé pareil.
Ouais,
maintenant, ils me disent, mais t'étais malade de nous habiller comme ça.
Mais non, au contraire. Ah bon, moi, je trouve que ça fait une très, très jolie petite famille. Anne, on va poursuivre un peu en musique. Et votre premier choix évoque un petit peu les questions de la mémoire maintenant aussi.
Oui, exactement, la féminité et la mémoire.
Ouais.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Ah-dou-dou-dou-dou-da-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-
Ça nous touche énormément d'entendre Jeanne Moreau, bah, surtout parce qu'elle est, elle nous a quittés récemment. C'est le choix d'Anne Lecourt qui est l'invitée du Carré VIP aujourd'hui.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Et alors ce qui vous met en joie, c'est votre coup de cœur, c'est Karine qui est photographe. Bonjour Karine.
Bonjour.
Anne, dites-nous pourquoi vous avez choisi Karine.
Alors je n'ai pas préparé la réponse à cette question du tout. Karine, mais je peux dire que improvisé. Karine et moi, c'est une vieille histoire. Voilà, ça commence à l'école primaire. Il se trouve que Karine habite sur le chemin de l'école. Pour moi et mon frère.
D'accord.
Et donc, je connais ce visage familier de la famille de Karine, puis son visage à elle. Et il se trouve qu'on se croise à peu près tous les 10 ans pour des choses très importantes qui tournent autour de nos métiers respectifs et du souci qu'on a des autres. Et que j'ai un grand, grand respect pour ce que fait Karine. Et alors, tous les 10 ans, je me dis, il faut qu'on travaille ensemble.
Et là, ça y est, ça se...
Mais en tout cas,
au moins déjà, vous commencez par faire une émission de radio ensemble.
On est l'une de l'autre, on s'est trouvé un peu de temps.
Alors, Karine, vous êtes photographe.
Oui, tout à fait.
Vous travaillez au sein d'une association, donc il y a de la vie, c'est ça.
Voilà.
Qui a un projet vraiment fabuleux, vous pouvez nous le
présenter. Oui, alors, je suis cofondatrice de cette association qui existe depuis juin 2012. Mm-hmm. Au départ, c'était juste... une envie de bénévolat de ma part, parce que moi je suis photographe professionnelle depuis 30 ans et j'étais photographe de mode pendant 20 ans.
Ah oui.
Et j'avais envie de faire un peu de bénévolat, donc je suis allée dans une maison de retraite pas très loin de chez moi, où il se trouve que je connaissais la directrice qui était une ancienne voisine, et j'ai proposé de faire de la lecture, et elle m'a dit mais c'est ridicule, t'es photographe, propose de faire des photos aux résidents de cette EHPAD. Et l'aventure a commencé comme ça.
D'accord.
Et c'est grâce à eux, au bout d'un an de photographie, de discussions aussi, qu'ils nous ont dit « mais ces photos, il faut les montrer. Il faut montrer qu'il y a de la vie en maison de retraite. » Et l'association s'est créée comme ça, il y a de la vie.
Et là maintenant, il y a de la joie, il y a de la vie aussi, pas seulement dans votre maison, dans la maison de retraite où vous avez commencé.
Non, tout à fait. En fait, on est quand même beaucoup sur le champ de personnes dites fragilisées. Donc on va travailler sur le champ du bien vieillir, du handicap, de la maladie. L'idée, c'est de changer le regard aussi auprès du grand public. Et par le biais de ces photographies, pour les personnes photographiées et leur entourage, de permettre une meilleure estime de soi. On travaille vraiment, pour nous, c'est un peu mettre en valeur les invisibles. Les
D'accord.
personnes dont on ne va pas parler, qu'on ne va pas mettre au premier plan. Voilà, donc là, par exemple, on est sur un projet qui s'appelle Les Belles Combattantes, où on a proposé à des femmes atteintes de cancer de venir se faire photographier en studio
D'accord.
avec une socio-esthéticienne. Et l'idée étant de... Voilà, il n'y a aucune contrainte, c'est-à-dire que c'est un temps partagé entre nous, entre la socio-esthéticienne, toute l'équipe. Un temps donc de photographie, de parole, d'écoute. Et l'idée après, c'est d'en faire une exposition pour permettre le changement de regard. Mais si la personne ne souhaite pas être dans l'exposition, il n'y a pas non plus
Bien
d'obligation.
Sûr,
c'est vraiment le moment qu'on va passer avec cette personne qui est important.
Et ce studio, il est fixe ou il se déplace ?
Alors les deux. On a un petit atelier rue de Châteaudun, mais on part également à Rennes, dans différents lieux. On peut s'installer pendant, ça nous est arrivé de nous installer par exemple à Saint-Grégoire au service oncologie pendant 18 mois.
D'accord.
On passait de service en service avec notre studio en proposant... aux patients, aux équipes, aux familles, de faire des photos, de faire des interviews si elles en avaient envie. Et voilà, donc nous on s'adapte en fait, on co-construit avec les personnes que l'on rencontre.
D'accord. On va passer à une page musicale encore avec le choix d'Anne. C'est Alina Orlova.
Все твои праздники, мой милый. тети целуются у твоей двери. Красота пустоты.
Alina Orlova, son un album qui s'appelle Moutabor, une très très, très belle pochette, hein, une piscine vide. Là. Vous avez déniché ça où, Anne Lecour?
J'écoute FIP, et FIP est toujours une radio pleine de trouvailles, de gens qu'on n'entend pas. Voilà, donc c'est son deuxième album, elle est commencée à être connue, mais elle n'était pas, elle est donc des Pays-Baltes.
Ouais.
Je ne vais pas dire de Vilnius, voilà, exactement.
D'accord, ouais. La ville la plus... j'ai toujours... Je bute toujours un petit peu sur... C'est celle qui est la plus au nord, c'est ça?
Et bien justement, ne me demandez pas, parce que
je... Si, moi, je vous dirai après l'émission. Anne, vous aimez beaucoup la musique aussi?
Oui, je suis musicienne.
Vous pratiquez quoi?
De l'accordéon diatonique, et puis je chante aussi, voilà. Et c'est, voilà, toute une famille à vivre un peu dans les mots et la musique.
Oui, oui. Et là, vous allez pousser votre coup de gueule, Anne Lecour.
Oui.
Qu'est-ce qui vous énerve?
Qu'est-ce qui m'énerve? Je pense que c'est parce que quand j'étais petite, je voyais à la télévision les hommes importants qui sont les dirigeants, nos dirigeants, des hommes bien habillés, avec de grosses voitures, des gens qui parlaient bien et que je pensais intelligents. Et la vie a passé et j'ai 50 ans aujourd'hui et je les vois assez inchangés finalement. Ils ont les mêmes costumes, les mêmes voitures, les mêmes discours.
Ouais, les mêmes discours surtout.
Voilà. Ouais. Et moi j'ai l'impression d'avoir avancé, d'être mature aujourd'hui, pour pas dire VIP. Et je me dis, c'est ça mon coup de gueule, c'est de voir combien ils sont finalement un peu à la ramasse, à la traîne, toujours en retard sur les choses. La société qui évolue beaucoup avec des choses difficiles, des inégalités de plus en plus flagrantes, des modes de vie qui évoluent. Mmh. Et puis, je me dis toujours heureusement qu'il y a les individus, heureusement qu'il y a les associations, pour anticiper un petit peu sur un projet de société qui reste vraiment à faire. Voilà, on est très réduit à des chiffres, à des statistiques. On fait de la comptabilité avec les humains. Je pense que les humains, c'est pas ça.
Et les hommes sont aux places de décision, toujours.
Alors ça, c'est cet aspect-là aussi, toujours, malgré le temps.
C'est vrai. Et bien maintenant, on va passer à la gymnastique. C'est quoi votre truc pour rester en forme, comme ça, Anne Lecour?
Boire du vin rouge.
Très très bien, là je vous rejoins tout à fait.
Alors pas que, bien sûr. Non, c'est sourire, chanter, je l'ai dit, faire de la musique, marcher. Et puis oui, boire un peu de vin rouge, parce que... Ça fait du bien.
Tout à fait. Ouais, il faut consommer local, bon. Enfin, local, ça ne va pas être du vin breton, on n'en a pas beaucoup. Mais français, et on a d'excellents... Et c'est vrai que ça fait du bien.
Voilà, ça permet de se faire plaisir, de se donner des ailes aussi.
Ouais, ouais. Vous aimez bien boire un petit verre aussi de temps en temps, Marie?
Comment?
Vous aimez bien boire un petit verre de vin de temps en temps?
Pas spécialement.
Non, un petit porto, non. Non plus. Karine ?
Oui, moi. Oui.
Non, je
n'ai
pas du tout.
Non, je me rappelais de cette information qui m'avait vraiment choquée à l'époque de Jeanne Calment. Quand elle a eu 115 ans, je crois, on lui a interdit sa petite clope quotidienne et son porto. Mmh. Je trouvais ça abominable. Quoi,
Oui, c'est abominable.
Ne pas avoir son petit plaisir maintenu comme ça jusqu'au terme, jusqu'à la sortie, à la grande
sortie. Et puis c'est maintenant ou jamais, donc il faut se faire plaisir.
Exactement. Hein, Alors là, c'est l'accordéon. Je ne sais pas si c'est Anne qui est en train d'en jouer. Non, je ne pense pas.
Non, c'est un ami, jeune accordéoniste de talent, compositeur. Et il joue là avec une fille, puisqu'on est là aussi entre filles. Donc c'est Lena Johnson qui est suédoise et qui fait elle du violon. Voilà, c'est un joli duo de compositeurs, de jeunes gens d'une trentaine d'années.
Sur le chemin. Sur ce très joli duo choisi par Anne Lecourt, nous on va vers la fin de l'émission. Je voulais évoquer vos productions. Alors donc, on va revenir l'œuvre d'Anne Lecourt qui a motivé votre présence ici, c'est Les Discrètes, paroles de Bretonne. Donc un témoignage de la condition féminine en Bretagne de 1930 à 1970, c'est absolument passionnant. C'est aux éditions Ouest France. Karine, vous aussi vous publiez avec l'association Il y a de la vie. Oui. Là, il y a un livre qui s'appelle Toc Toc, Il y a de la vie dans le handicap.
Oui.
On le trouve où cet ouvrage?
Alors sur notre site, yadelavie.com, YADLAVIE, et dans notre atelier, lors des expositions également, puisque c'est une exposition qui voyage beaucoup. Elle a même été à l'Élysée, donc elle est quand même partie loin.
Effectivement, bravo. C'est absolument magnifique.
C'est vraiment, ça a été une expérience formidable. On est resté un an dans ce foyer de vie pour personnes en situation de handicap mental, qui est un foyer à Rennes. Ouais. Et on a découvert des personnes extraordinaires. Donc ce sont leurs images. On avait installé un studio photo au sein du foyer de vie. Donc c'est tous ces moments partagés avec eux.
Que des gens extraordinaires comme ceux qui viennent parler avec nous au Carré VIP. Et oui, c'est vrai, c'était encore un grand bonheur de rassembler ces trois femmes extraordinaires aujourd'hui au Carré VIP. Alors je remercie beaucoup Anne Lecourt, Karine Nicolo, Marie qui est venue de Montfort parler avec nous. Au revoir.
Au revoir Marie-Christine.
Et je remercie beaucoup Xavier Jean qui était aux manettes encore une fois cette semaine. On se retrouve dans 15 jours. Oui, au fait, bonne fête de fin d'année à tous. Et on va se retrouver l'année prochaine avec Hélène Bernard. Et puis, si vous voulez, ce soir aussi à 20h sur RCF et bien sûr sur le site web culturel rennais et breton unidiver.fr. Très bonne fête et à l'année prochaine. Doudou.